Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado Urbania.
Ton rancet, mettons, qui va dire je vais te mettre ma bite dans ta chatte, puis le Téco de Québec, je vais te la crisser ma graine dans le.
Mon Dieu!
Non,
mais je veux dire, ça parle beaucoup plus.
Mais ça parle beaucoup plus.
Sur Pornhub, le mot-clé le plus recherché, tout pays confondu, c'est « lesbienne ». Si on restreint la recherche au Québec seulement, le plus populaire, c'est « Québec ». Qu'est-ce que notre porno dit de nous? Je dissèque aujourd'hui notre identité cochonne avec Arielle Rebelle, actrice et mannequin porno, qui est aussi photographe et entrepreneur, puis avec Éric Falardeau, réalisateur, écrivain et spécialiste de la pornographie.
Ben oui, en quelque sorte.
Passionné de porno.
En tout cas, j'ai des diplômes pour le prouver. Mais tout va bien.
Mais Éric, on va commencer avec toi. C'est quoi nos racines pornographiques au Québec?
En fait, la Régie du cinéma a octroyé les premières licences au tournant des années 90, 93, 94.
Crime, c'est seulement. Récent.
C'est très, très récent. Puis on a eu quelques films, là, les premiers titres, je pourrais dire, il y a eu Putain de chômage, Les pipeuses de l'entrepôt.
Les pipeuses de l'entrepôt? Ouais.
C'est qu'on est des workers ici, c'est pour ça l'affaire. Là. Faut que ça nous représente.
Ben non, on sait que le Québec, c'est quand même une classe au Canada à part, donc faut l'assumer totalement. Puis c'est ce qu'ils ont fait.
Wow.
Donc, mais je te dirais pas qu'il n'y avait pas de porno qui existait au Québec avant. Le problème, c'est que étant donné qu'il n'y avait pas de réseau de distribution établi, étant donné qu'il n'y avait pas de licence pour le distribuer, ben c'était fait de façon indépendante, c'était fait par les magazines, tout ça. Donc, il n'y avait pas vraiment d'industrie formée.
En fait, depuis que l'industrie s'est construite, est-ce qu'on s'est tourné vers une porno qui est plus universelle ou on a vraiment garder des valeurs québécoises?
Bien, en fait, des titres un peu glauques, là, carrément. Ouais, bien, c'est ça. Si on regarde les grosses compagnies de production, en fait, au Québec, personnellement parlant, je trouve ça complètement ringard. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Je trouve ça, sur le plan international, c'est très laid. En fait, on a l'air d'une gang de cases.
Ça a l'air cheap, non,
ça n'a pas l'air cheap. C'est laid cheap.
On reste très dans l'humour. Puis ça, je pense, c'est une caractéristique très, très québécoise.
Oui, c'est vrai.
Si on parlait les pipeuses d'entrepôt, on a ri tout de suite.
Oui.
Je veux dire, c'était pensé, mais quand on regarde un film qui est sorti il y a quelques années, Les petits carrés rouges, vous imaginez sur quoi ça porte. Mais juste le titre, je veux dire, on rentre dans ce genre d'humour de mon oncle, un peu cheap.
Moi, ils m'ont lâché à Dr. Noon. Dr.
Noon.
À Dr. Noon, ça a été terrible.
Mais c'est pas gênant, ça, sur le plan international?
Extrêmement gênant.
OK, mais est-ce que notre porno pogne juste ici ou elle trouve un public ailleurs avec son humour et ses jeux de mots douteux?
Moi, je pense qu'il y a un public pour tout, en fait, dans la vie. C'est pour ça que ces gens-là, ils sont encore en business puis ils font un paquet d'argent. Mais oui, sur le plan sérieux, tu sais, on verra pas ça au Film Festival de Berlin, tu sais.
Non.
Certains trucs, on passera jamais ce niveau-là d'être un petit peu plus respecté avec des trucs complètement débiles, là-même.
Je dirais qu'il y a deux niveaux à cette industrie-là. Il y a ce côté-là, justement, qui parle plus à un public québécois,
de base.
Donc, hein, on les retrouve, ces films-là, sur Vidéotron, sur donc toutes les chaînes payantes, tout ça. Puis après ça, tu as un autre type de pornographie qui se veut plus international. Mais ça, c'est pas différent d'ailleurs. Chaque pays a une porno très, très locale.
Mm-hmm. Ouais.
Parce que la porno locale, c'est un ensemble de caractéristiques qui parle juste à un public spécifique, qui est le public qui a cette culture-là.
Puis on a notre besoin de ça quand même un peu. Si on regarde, quand j'ai commencé il y a 14 ans, il y avait un type de porno majoritairement. Puis c'était la porno mainstream, les trucs qui se font aux États-Unis. Donc, la société était bombardée d'un type de sexualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement de différents trucs. Écoute, on a encore la porno mainstream. Il y a les trucs du Québec qui sont, bon, whatever. Puis, il y a des trucs un peu plus lichés, en fait. Bon, que, tu sais, je parle d'Erika Lust.
Ouais.
Tu sais, des trucs vraiment indépendants, des gens vraiment qui ont
voir utilisé... féministe, là, dans le cas d'Erika Lust.
J'ai de la misère avec le mot féministe quand on parle de porno, parce que le féministe, à la base, c'est l'égalité entre l'homme et la femme.
Ouais.
Donc, la seule façon pour moi qu'un film porno pourrait être féministe, c'est si l'homme et la femme se feraient payer le même cachet. Moi, j'aimerais plus le mot éthique que féministe.
En termes de, justement, structure de production, au Québec, on en est où? Est-ce que c'est éthique?
Non. pas encore.
Mais il faut dire aussi que les budgets de production de la majorité des vidéos pornographiques sont ridiculement bas. Là,
au Québec? Oui, mais en fait, ça, tu vois, pour moi, c'est pas une excuse. Le Québec, justement, on est réputé pour faire des trucs de qualité avec des budgets très, très moindres.
C'est vrai.
Mais c'est juste bon. Les gens qui ont les compagnies de production en ce moment qui roulent au Québec sont un type de personne, donc ils font un type de porno. Puis pour eux, ça fonctionne, donc ils ne voient pas pourquoi qu'ils changeraient.
Puis d'un autre côté, tu sais, je veux dire, c'est sans excuser encore une fois les choses, mais il y a une exigence de quantité aussi dans la pornographie. Oui, ça fait des plus petits budgets, mais ça fait aussi qu'il y a un seuil de rentabilité qui est quand même très, très limite, puis que le web a exacerbé. Parce que soit tu fais du contenu comme ça, donc avec toutes ces problématiques-là, ou soit tu fais du contenu niche, ce que Erika Loss a compris. Oui, parce que Erika Loss, qu'elle soit éthique ou féministe ou peu importe ce qu'elle soit, a décidé de se positionner comme étant cette figure-là.
Absolument.
Et c'est comme ça, justement, qu'elle va créer un réseau, un fanbase, puis qu'elle va s'inscrire un petit peu partout. Mm-hmm.
Absolument.
Je l'ai dit tantôt, les Québécois aiment particulièrement chercher le mot « Québec » quand ils cherchent à consommer de la pornographie. Qu'est-ce que ça dit sur nous, à part qu'on est chauvin de la culotte?
Mais je pense que c'est légitime, en fait. Peu importe où est-ce qu'on va aller dans le monde.
On veut s'identifier.
Oui, on veut s'identifier, exactement. Donc, tu sais, tu veux dire que quand tu vas marcher dans la rue, tu vas faire « Ah! » Mais je l'ai vu, c'est vrai dans un certain sens. En fait, je pense que ça fait juste partie de l'être humain en général. On veut une certaine appartenance. On aime ce genre de truc-là. Donc...
Ah, puis il y a une érotique des référents culturels. Je veux dire, si tu écoutes un film français, mettons, qui va dire je vais te mettre ma bite dans ta chatte, puis là, t'écoutes au Québec, je vais te la crisser ma graine dans le.
Mon Dieu!
Non,
mais je veux dire, ça parle beaucoup plus.
Mais ça parle beaucoup plus.
En fait, c'est qu'il y a tout un bagage référentiel qui fait en sorte qu'il y a une proximité qui n'est pas mise par le vocabulaire, par les lieux, par comment les gens se présentent. Donc, il y a tout un niveau culturel qui vient avec ça, qui fait en sorte que même si, quelquefois, notre pornographie, souvent, est plus cheap, ben, veut pas, ça, on se rejoint plus, on s'identifie, comme
définitivement,
tu disais.
Puis est-ce que nos termes là, très, très propres au Québec sont capables d'exciter des gens à l'international? Y a-t-il des gens qui préfèrent entendre « graines » que « bites »
Peut-être en France, mais en fait, ils trouvent que notre accent est un petit peu campagnard.
Ben, tu sais, si on regarde les expériences de certaines vedettes qui ont été travaillées à l'international, tu prends au niveau de la pornographie gay ou tu prends, mettons, Otioli ou des années 2000, tu sais, ce qui se passait, c'est qu'ils switchaient à l'anglais, mais il y avait encore leur accent. Puis on les brandait encore une fois comme les gens du Québec, les Nord-Américains francophones. Donc, c'était la question
ça,
de l'accent.
C'est un trend,
donc, c'est
bien,
un trend, tu sais, puis c'est comme un petit peu, c'est exotique, tu sais.
Oui, absolument.
C'est comme une fille d'Europe de l'Est rendue là ou une fille
absolument,
du Brésil, tu sais.
Au Québec, il y a le qui est un genre pornographique où des gens se filment avec leur webcam pour faire du streaming, d'où le nom. Est-ce que c'est un médium qui a le vent dans les voiles aujourd'hui ou c'est
explosé? Ah, non. On n'est plus dans l'ascension. On est proche du top, je pense, que dans le camming. Il y a quelques années, en fait, il y a 2-3 ans, ça a été vraiment l'ascension du phénomène de webcam. C'est les nouvelles technologies, en fait, qui rendent ces choses-là plus accessibles. Quand j'ai commencé à faire du camming, tu sais, t'as besoin d'une bonne connexion Internet. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient de la fiber optique dans leur salon. Donc, il fallait que tu ailles dans des studios. Moi, j'ai commencé dans un studio.
Oh, oui.
C'est grand comme une espèce de garde-robe. Il faisait froid parce qu'il y avait les gros serveurs avec toutes les... En tout cas, c'était cinglé, mais c'était la seule façon de faire quelque chose de qualité parce que aussi il y a ça dans le phénomène de la webcam, c'est si tu donnes un produit de qualité, donc ton image est belle, ton son est beau, clairement tu vas faire plus d'argent. Là maintenant, tout le monde est à peu près indépendant ou presque. Il y a encore des gens probablement en Europe de l'Est qui travaillent dans des studios, mais majoritairement les gens sont indépendants.
Puis au Québec, est-ce qu'il y en a beaucoup de personnes qui font du camming?
Énormément, énormément. Il y a quelque chose aussi avec le phénomène du camming, c'est que c'est vraiment la fille, elle est indépendante, elle est chez elle, où elle veut pas nécessairement être une personnalité publique.
Elle veut
vraiment
faire ça. Actrice, là.
Non, exactement. Il y a comme vraiment des levels, là, carrément, dans l'industrie. Ça, c'est vraiment pour la fille qui veut payer ses études, puis qui fait ça à la maison ou avec son copain. Quand les tube sites ont vraiment pris contrôle de l'industrie, puis ils ont mis un paquet de gens à la rue, carrément, parce qu'ils volaient énormément de contenu. Tu sais, tu as mentionné Pornhub. Pornhub, c'est le devil, là, carrément. Tu sais, en Californie, les gens qui vivent de scène en scène, de compagnie en compagnie, c'est impossible pour eux de dire quoi que ce soit contre MindGeek, parce que MindGeek, écoute, c'est Digital Playground, c'est Playboy. La minute que tu dis quelque chose contre Pornhub ou n'importe quoi de MindGeek, t'es blacklisted de toutes les shootings.
Donc, au fond, des grands sites de streaming que tout le monde consulte parce qu'ils sont gratuits, prennent du contenu d'acteurs
de sites payants. Okay. En fait, moi, quand j'ai commencé, c'était ça. C'était les sites payants. Donc, moi, je suis comme dans la première vague de Solo Girl. J'avais mon site payant. J'étais exclusive à mon site. Quand les tubesides ont rentré, ils ont été sur tous les sites payants. Ils ont pris le contenu. Ils l'ont foutu en ligne.
Sans rétribuer les personnes qui ont créé le contenu.
Non. Ils ont créé leur trafic de cette façon-là parce que c'est ça la game de l'Internet. Mm-hmm. C'est le trafic. Mm-hmm. Donc, ils ont créé leur trafic. Ils ont vendu des advertising. Ils ont fait un paquet d'argent. Quand les gens ont commencé à vraiment perdre leur chemise, ils ont fait « Ah, tu te plains? Parfait, moi t'acheter. Ah, tu te plains toi aussi? Parfait, je vais t'acheter. » Je pense que c'est là, en fait, pour ça que la webcam, en fait, a vraiment pris une grosse place.
Parce que les personnes peuvent demeurer indépendantes.
Exactement, ils demeurent indépendantes. Même si, oui, les gens enregistrent les shows de webcam, tu sais, c'est pas comme si t'as un site payant, tu travailles très fort à faire un contenu de qualité, puis là, tu te le fais voler. Maintenant, les camgirls utilisent les tube sites comme Pornhub
pour se faire connaître.
Pour amener du trafic.
Exactement. Ah, fait que c'est totalement un marketing très, très, très
C'est vraiment drôle parce que ça ramène toutes ces idées-là d'industrie professionnelle versus l'amateur aussi. Qui rentre dans une logique très Internet en ce moment, qui est celle un peu de l'authenticité. Là, on va avoir un rapport spécial avec certaines personnes, on va suivre certaines personnes. On le voit dans le milieu des arts avec Patreon et d'autres choses. En même temps, c'est difficile de voler ce contenu-là parce qu'il y a une dimension très, très, très large d'interactivité.
Absolument.
C'est-à-dire que ça se passe dans le temps réel, donc tu réagis. Il y a tout un modèle d'affaires qui est totalement différent.
Absolument.
Qui rejoint un peu ce moment de société où, justement, je pense que les gens ont besoin de
revenir à une
certaine proximité.
Oui, d'avoir un lien avec la personne
Absolument.
Qui admire.
Absolument. Ouais.
Là, il y a des cinémas qui offrent de la porno 5D, fait avec mouvement, odeur et vent. Il y a évidemment la porno en réalité virtuelle. Ouais. C'est quoi le futur de la porno québécoise, d'après vous?
Si on regarde les modèles d'évolution des médias en général, il y a plein d'affaires qui ne marchent pas. Le cinéma a essayé le 5D, il essaie de le faire, ça marche fuck all. Ça va marcher fuck all pour la pornographie.
Mais non, mais ça, c'est un trend. Là.
Ouais, c'est
un autre trend. Là.
Par contre, moi, je pense que la grande chose qui s'en vient, c'est le camming.
Okay.
Si la technologie qu'on développe à chaque jour pour la connexion Internet, pour les caméras, le stitching, justement, comment faire du bon 360.
Il y en a des compagnies déjà qui donnent ce genre de caméras-là.
Fait qu'on va arriver à ce niveau-là où qu'on va avoir cette expérience-là en réalité virtuelle, doublée à du camming, doublée avec des objets connectés.
Wow!
Ça existe déjà.
Ça s'en vient. Ça existe déjà, mais je pense que c'est vers là que ça s'en va beaucoup plus, je pense, comme expérience d'utilisateur que vers du 5D en cinéma.
Toutes ces expériences-là.
Wow!
Fait qu'on va bientôt pouvoir quasiment avoir une relation avec
mais
la
on
personne.
Mais on l'a déjà. On a déjà le Love Sense, qui est un jouet... Quand tu vois une fille qui a une espèce de truc rose qui lui sort d'un orifice, le truc, il est triggeré par les sons. Fait que là, quand la personne va tiper, ça va faire un son, puis là, ça va créer une vibration. Mais là, la situation à faire, c'est qu'il y a des filles vraiment qui en abusent, OK? Il y en a qui ont l'air d'avoir, genre, une crise d'épilepsie pendant que, genre, oh my God, j'ai reçu un tip, puis là, commence à shaker comme une espèce de débile.
Oui, puis il y a des enjeux de sécurité aussi. À un moment donné, c'est des objets que si tu abuses de ces objets-là, tu peux développer certains autres problèmes.
Absolument.
T'sais, au niveau de ton corps, là, si quelqu'un joue là-dessus pendant 3 heures.
T'sais, c'est comme quand tu te rends des dildos qui sont gros comme à un moment donné, tu sais, ça stretch, là.
Voilà.
C'est de la peau, ça stretch. On va parler crudement, c'est ça.
Je suis loin d'être outrée, je suis fascinée. Je sais que ma face en ce moment est confuse, mais c'est juste des choses dont j'avais jamais entendu parler et que je pense que j'ai envie d'essayer. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Ariel Rebelle et Éric Falardeau.
Plaisir.
On va suivre le dossier de près à Sans filtre.
Voilà.
Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca.